Voici une question dont la réponse pourra littéralement transformer votre vie. Comment pouvons-nous être déclarés justes devant Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse vitale pour tout être humain, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, écoutez bien les questions qu'on va poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Et surtout, ne manquez pas les réponses à ces questions, puisque pour certaines d'entre elles, ce sera pour vous une question de vie ou de mort éternelle. Est-ce que la résurrection est une doctrine essentielle du christianisme? Est-ce important de savoir qui est Jésus-Christ? Est-ce essentiel de savoir que Jésus est mort pour nos péchés? Est-ce que le Canada peut être considéré comme étant un pays chrétien? Comment Dieu prend-il les moyens de démontrer sa grâce merveilleuse à ceux qui ne vont pas entendre prêcher l'Évangile dans les églises? Comment pouvons-nous être justifiés devant Dieu? Qu'est-ce qui nous attend après la mort si on ne demande pas à Jésus de prendre nos péchés sur lui? J'ai tellement hâte d'entendre les réponses que Dieu va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui. Je suis certaine que plusieurs de nos auditeurs ne seront plus les mêmes suite à l'enseignement qu'on va recevoir. Allons dans la présence de Dieu pour nous assurer d'avoir des cœurs disposés à recevoir cette bonne nourriture spirituelle qui vient de la Bible, du grand livre de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, on veut être dans ta présence. On veut goûter à ta présence à travers l'enseignement que tu vas nous donner. Enseigne-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à bien recevoir tout ce que tu veux nous dire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, le tribun Claudius Lysias avait fait comparaître Paul devant le Sanhédrin afin de connaître les accusations que l'on portait contre lui. Paul se défendit en provoquant une vive discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Le tribun mit Paul en sécurité dans la forteresse. Les Juifs complotèrent afin d'assassiner Paul, mais son neveu l'apprit et avertit Paul ainsi que le tribun. Celui-ci transféra Paul à Césarée et dit aux accusateurs de Paul de s'adresser au gouverneur Félix. Paul n'obtient pas de réaction sympathique des siens pour le ministère dans lequel il était engagé. Il est possible qu'il ait passé par une période de découragement, car le Seigneur lui a parlé pour l'encourager, car il devait proclamer la parole à Rome. Le Seigneur ne lui a pas promis que tout irait toujours bien et que ce serait facile. En fait, Paul est passé par de nombreuses tribulations. Depuis ce moment jusqu'à son martyre, Paul fut toujours en danger. En fait, il en fut ainsi depuis le jour où il a fui Damas en descendant la muraille dans un panier. Dans ce chapitre, nous apprenons qu'Ananias, le souverain sacrificateur et les anciens se sont présentés devant Félix pour accuser Paul. Ils l'ont accusé de sédition, de rébellion et d'avoir profané le temple. Chers amis, débutons la lecture de notre chapitre, Actes, chapitre 24, verset 1er. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Les accusateurs de Paul n'ont pas tardé à venir à Césarée. Ils n'ont pris que 5 jours pour s'adresser au gouverneur. Ils étaient accompagnés d'un orateur, l'équivalent d'un avocat dans notre système judiciaire. Tertulle était rusé. Et il avait bien préparé son dossier. Il fut bref et vint directement aux accusations, et il fit son possible avec le peu qu'il avait. Versets 2 et 3. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, avec une entière gratitude. Tertulle flatte Félix. Et ce qu'il dit n'a rien à voir avec les accusations portées contre Paul. Il ne se gêne pas pour en rajouter. Versets 4 et 5. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Il accuse Paul de provoquer des divisions, mais il n'est pas en mesure de présenter des preuves. Versets 6 à 9. Et qui même a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Notez les insinuations que font les chefs religieux au sujet de la manière que le tribun Lysias a secouru Paul des mains de la foule en colère. Les chefs religieux ne peuvent pas accuser le tribun de négligence dans ses devoirs, mais ils le critiquent subtilement. Ils affirment que les Juifs auraient pu juger eux-mêmes l'apôtre Paul. Donc, ils flattent le gouverneur Félix, accusent faussement Paul et font des insinuations à l'égard du tribun Claudius Lysias. Paul est accusé de provoquer des séditions, de diriger une secte rebelle et d'avoir profané le temple. Après le discours de Tertulle, Paul parle pour sa défense. Versets 10 et 11. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Paul affirme être heureux de présenter sa défense à Félix. Il sait que Félix juge la nation juive depuis longtemps, et qu'il comprend ses coutumes. Donc, Paul ne dira pas des choses que Félix entendra pour la première fois et qui lui sont nouvelles. Versets 12 à 14. « On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne serait prouvé ce dont il m'accuse maintenant. » Je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Puisque Félix connaît la culture juive, Paul lui explique qu'il s'est rendu à Jérusalem pour adorer Dieu selon les coutumes de sa nation. En fait, il dit, « Je suis d'accord avec ma nation, seulement je dois reconnaître qu'il considère ma façon d'adorer Dieu comme une hérésie. » Cependant, Paul déclare qu'il adore Dieu selon l'enseignement de l'Ancien Testament. Verset 15. Et, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Selon vous, qui est Jésus-Christ? La résurrection est une doctrine essentielle du christianisme. Elle est enseignée depuis le début de l'Église et auparavant par les pharisiens. La grande question est toujours, selon vous, qui est Jésus-Christ? Est-il mort pour vos péchés? Est-il ressuscité d'entre les morts? Paul vient immédiatement au point central de l'enseignement du christianisme, la résurrection. Verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul explique qu'il fait tout ce qu'il fait pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Verset 17. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Paul est venu apporter les dons collectés par les églises d'Asie et d'Europe aux chrétiens de Jérusalem. Le don devait être très important, car Paul a jugé bon de l'apporter personnellement. Versets 18 et 19. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi. Paul souligne que les vrais accusateurs, s'il y en avait vraiment, n'étaient pas présents. Tertulle a accusé Paul d'avoir provoqué une sédition. Alors, où sont les personnes qui étaient présentes lors du tumulte que Paul est supposé avoir provoqué? Paul fait remarquer qu'ils sont absents. Les accusateurs ne sont pas témoins des faits dont ils l'accusent. Ce qu'ils ont dit n'est que du oui-dire. Verset 20. Ou bien, que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Paul les met au défi de déclarer le crime dont ils l'ont trouvé coupable lors de sa parution devant le Sanhédrin. Verset 21. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Quels sont les deux piliers du christianisme? Paul dit à Félix encore une fois que la véritable question est la résurrection qui est le noyau de l'Évangile. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Il fut enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Le christianisme est une arche supportée par deux piliers. Le premier est la mort de Jésus-Christ, et le deuxième est sa résurrection. S'il manque un pilier, l'arche ne peut demeurer debout. Dites-moi, en quel Christ croyez-vous? En celui qui est mort pour vos péchés, uniquement, ou en celui qui est mort pour vos péchés et qui est ressuscité, qui est rendu à la vie, qu'il est vivant et qu'il peut parfaitement accomplir son œuvre encore aujourd'hui, son œuvre de délivrance, de salut, pour quiconque croit. Verset 22. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Félix avait déjà entendu parler de cette doctrine. Il savait que les chrétiens proclamaient la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il savait que Paul était une autorité pour enseigner cette doctrine. Il a reporté l'affaire car il voulait entendre la version du tribun Lysias pour savoir ce qui s'était vraiment produit pour ensuite refaire comparaître Paul. Il ne pouvait trancher entre les versions contradictoires qu'il venait d'entendre. Donc, il reporte le procès. Verset 23. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté, et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. En fait, Félix aurait dû libérer Paul, mais il est un politicien rusé et véreux. Cependant, il accorde une certaine liberté à Paul. Versets 24 et 25. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Pour un pécheur, il n'y a jamais de temps favorable pour entendre l'Évangile. Félix était déjà un peu familier avec l'Évangile, la doctrine, ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui. Certains qualifient le Canada de pays chrétien, mais ce n'est plus le cas. Ce ne sont pas les adhérents à diverses confessions religieuses qui manquent, ni les membres d'Église. Nous les comptons par milliers, mais seule une extrêmement petite minorité est véritablement chrétienne. Ce sont ceux et celles qui croient en l'Évangile, qui acceptent la parole de Dieu comme l'autorité sur leur vie et comme étant le souffle de Dieu. Ceux et celles qui acceptent Christ comme sauveur personnel pour leur existence. Félix convoqua Paul pour se faire expliquer davantage le christianisme. Il veut en savoir plus sur la foi en Jésus-Christ. Des commentateurs intitulent ce verset « Paul se défend devant Félix ». Je ne suis pas d'accord avec ce titre. Paul ne s'est pas défendu. Il a témoigné à Félix afin de le convertir à Jésus-Christ. L'histoire séculière trace un portrait sombre du gouverneur Félix, mais ce n'est pas ce que font les Écritures. En fait, l'histoire nous apprend qu'il était un esclave libéré et que c'est par la cruauté et la brutalité qu'il a avancé dans la vie. Félix était un débauché, un libertin, un vaurien. Tacite, un historien romain, a dit de Félix, « Par sa cruauté et son libertinage, il exerçait l'autorité d'un roi avec l'esprit d'un esclave. Paul fut livré entre les mains de cet homme. Drusille, son épouse, l'accompagnait pendant la comparution de Paul. Selon l'histoire, elle était une fille d'Hérode Agrippa Ier. C'est son père qui a fait périr l'apôtre Jacques, dans Actes chapitre 12, versets 1 et 2. C'est son grand-oncle qui a décapité Jean-Baptiste. Son arrière a tenté de faire mourir Jésus. Dieu démontre sa grâce merveilleuse. Ce couple est maintenant au haut de l'échelle sociale. Il n'aurait jamais mis les pieds dans une église où l'on prêche, et il ne serait jamais allé entendre Paul prêcher s'il était venu en ville. Cependant, une belle occasion de recevoir le Seigneur Jésus leur fut accordée. Ils eurent droit à un sermon privé du plus grand prédicateur de son temps, un homme qui prêchait la grâce de Dieu. Dieu leur a accordé un grand privilège. C'est une démonstration de la grâce merveilleuse de Dieu. C'était l'heure du salut pour eux, et ils étaient invités à passer par la porte grande ouverte. Pour eux, ce fut l'appel du psaume 2, verset 10. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. » Le couple fut très intéressé par le discours de Paul. Félix a considéré se consacrer à Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a voulu attendre un moment favorable. Mes amis, un pécheur ne trouvera jamais le temps favorable pour se convertir. Ce n'est pas l'homme qui choisit l'heure, mais Dieu. Et Dieu nous avertit solennellement dans sa parole que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant le temps du salut, de la délivrance. La loi révèle que nous sommes pécheurs. Dieu revêt d'une robe de justice ceux qui croient en son Fils. Paul a parlé de justice, de tempérance et du jugement, des éléments pour faire un sermon formidable. Paul a dû expliquer que nous ne pouvions pas être déclarés justes par l'observation de la loi. La loi révèle plutôt que nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons donc pas être justifiés devant Dieu par l'observation de la loi. Pourtant, pour nous tenir devant Dieu, il nous faut notre justice propre, une justice acceptable aux yeux de Dieu. Puisque nous ne pouvons en présenter une, Dieu en met une sur notre compte. Il revêt d'une robe de justice ceux qui croient en son Fils Jésus. Romains chapitre 3, verset 22 parle de cette justice. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Paul a expliqué tout cela à Félix. La justice de la loi est inefficace, mais nous en obtenons une gratuitement par la foi en Jésus-Christ seul. Ensuite, Paul a parlé de tempérance qui est la maîtrise de soi. Félix était esclave de ses passions, et il était cruel. Félix et Drusille, deux grands pécheurs, ne connaissaient pas la véritable liberté. Ensuite, Paul a parlé du jugement à venir, le jugement du grand trône blanc, décrit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Chers amis, portez-vous vos péchés, ou le Seigneur Jésus les a-t-il portés pour vous à la croix? C'est l'un ou l'autre. Si vous avez placé toute votre confiance en Jésus-Christ, il les a portés pour vous à la croix il y a plus de 2000 ans. Si vous ne demandez pas au Seigneur Jésus de prendre sur lui vos péchés, vous les porterez vous-même au jugement dernier. Cependant, De nombreuses personnes détestent entendre parler du jugement. Ce fut le cas de Félix et Drusille. Vous pouvez faire comme eux et cesser d'écouter l'Évangile. Mais cela ne changera rien pour vous au jugement dernier. Ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ seront condamnés à la perdition éternelle. De nombreux prédicateurs ne parlent jamais de ce sujet. Ceux qui enseignent encore la Bible sont les seuls à le faire. Cependant, il ne faut jamais le faire sans parler du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons du jugement et de l'enfer, nous devons le faire avec compassion. Le seul moyen de faire cela est de présenter aussi l'Évangile, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais parler du jugement et de l'enfer sans parler de la grâce de Dieu manifestée et offerte en Jésus-Christ. Paul a parlé de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Ce sont là trois éléments de l'Évangile. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Dieu porte sur notre compte la justice parfaite de son Fils. Nous recevons le pardon de nos péchés. Cependant, le croyant est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus. Il n'est plus esclave du péché, mais esclave de la justice de Dieu. Il a maintenant le pouvoir de dominer le péché en se livrant à la justice. Finalement, il a la vie éternelle, car il échappe au jugement qui aurait pu le condamner à l'enfer pour l'éternité. Chers amis, quelle est votre décision? Allez-vous mettre votre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Recevoir une nouvelle nature ainsi que la vie éternelle? Ou préférez-vous porter vos péchés vous-même au jugement dernier? Quelle est votre décision? Voyez-vous en Jésus-Christ le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Tout comme Félix et Drusille ont eu l'occasion de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez aujourd'hui. Maintenant, qu'allez-vous en faire? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Un jour, je fus mis devant cette situation, où le Seigneur m'a montré, à travers la lecture de la Bible, mon péché. Il a révélé à mon cœur que j'étais un être pécheur et perdu. En utilisant entre autres des textes de l'Évangile selon Jean. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot périr, voilà le mot que Dieu a utilisé pour m'interpeller. Oh, je connaissais déjà cette histoire de l'amour de Dieu envers l'homme pécheur. Je savais que Dieu était amour, je savais que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour sauver le pécheur. Mais je n'avais jamais saisi cette réalité, que j'étais un de ces pécheurs perdus, que j'étais sur le chemin large qui conduisait à la perdition éternelle. Et je me souviens comme si c'était aujourd'hui. J'ai invoqué Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je lui ai confessé mon péché. Je lui ai demandé de venir me pardonner, me laver, me purifier de cette iniquité et de le recevoir comme sauveur personnel. Chers amis, c'est à votre tour de prendre cette décision. Là où vous êtes, à l'instant même, je vous invite à le faire, en ces quelques mots et à dire tout simplement, « Oui, je réalise l'être que je suis devant Dieu, que je suis un pécheur perdu qui a besoin du Sauveur Jésus, envoyé par Dieu pour effacer ma dette. » Prochaine émission, Actes chapitre 24, verset 25 à chapitre 25, verset 23.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, est-ce que vous avez vu, avec votre cœur, bien sûr, à quel point Dieu vous aime? Pour ma part, je suis convaincue de son amour depuis plusieurs années. Mais ça m'a fait tout chaud au cœur d'entendre de nouveau la description de ce beau plan d'amour que Dieu a exécuté en donnant son Fils unique, Jésus, qui est venu sur cette terre dans un corps d'humiliation comme le nôtre, afin de payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix, en se laissant crucifier par les mains de sa propre créature. Et tout ça, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui nous est décrit dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 16. Mais, comme Réjean nous l'a si bien dit, si vous ne demandez pas au Seigneur Jésus de prendre vos péchés sur lui, vous les porterez vous-même au jugement dernier. C'est sérieux. Je sais que la majorité des gens n'aiment pas entendre parler du jugement dernier, de l'enfer. Mais comment ne pas les mentionner quand on sait qu'ils existent? Mes amis, si vous voyez des gens marcher dans la nature et que vous savez qu'il y a un précipice caché dans la broussaille tout près d'où ils sont, est-ce que vous n'irez pas les avertir qu'ils pourraient marcher vers leur mort s'ils faisaient un pas de plus, même en sachant que ça les dérangerait? Si vous lisez la Bible, la parole de Dieu, vous pouvez voir que ce que Réjean et moi vous annonçons, c'est la vérité. Par exemple, dans l'Épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 26 et 27, il est écrit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais heureusement, Dieu nous a donné une solution pour qu'on n'ait pas à subir ce châtiment éternel. Et cette solution, c'est Jésus, ce Jésus merveilleux, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Il est venu sur cette terre pour toi et moi, mon ami. Quand il agonisait sur la croix, il a pensé à toi. Il savait que tu viendrais sur cette terre environ 2000 ans plus tard, que tu pécherais et que tu ne serais pas capable de te racheter toi-même. Et juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Jésus a tout accompli pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses passer l'éternité au ciel, dans le royaume de Dieu, au lieu d'aller dans ce lieu horrible que nous méritons tous, puisque la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Mais la bonne nouvelle est au verset 24, où Paul ajoute que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, crois-tu en Jésus-Christ? Es-tu prêt? Es-tu prête à mettre toute ta confiance en lui seul pour le pardon de tes péchés? Prends le billet gratuit qu'il t'offre en ce moment. Repens-toi. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain que Jésus va le faire.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.